À toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau reportage sur Radio Fil de l'eau. Aujourd'hui dans ce reportage, on vous amène au cinéma olympien, mais pas pour un film, plutôt pour une conférence par l'auteur Jean-Christophe Sélin autour de son ouvrage « Comprendre et vaincre le fascisme ». Il y avait un échange au cinéma olympien lors de cette projection qui suivait après sur le film documentaire Orwell. Je vous laisse découvrir tout cela.
Dans les luttes sociales et politiques, les combats contre le fascisme et le racisme ont engendré ce livre, Comprendre et vaincre le fascisme. Tu es aussi, si je ne me trompe pas, professeur des écoles.
Retraité.
T'es retraité.
Très actif.
T'es pas mal. Responsable d'une importante association d'éducation artistique à Toulouse. Voilà. Je conclue avant que tu prennes la parole. Je viens d'évoquer en tant que LDH l'importance de l'état de droit. Tout à l'heure, Orwell va nous livrer sa vision du totalitarisme, ce qui est autre chose que la question de l'état de droit, qui est plutôt un questionnement sur le langage, la postmodernité, ce genre de choses que Orwell avait pressenti avant tout le monde. Jean-Christophe, évidemment, tu diras ce que tu veux.
Mais ça,
si
c'est
j'ai,
clair.
Si j'ai bien lu tes travaux, c'est plutôt sur le fascisme et la genèse du fascisme. Alors, je commence par une question. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le fascisme à la française?
Ah.
À la française. Voilà. Hein.
Ah. Eh oui. Bon, écoutez, merci à toutes et à tous d'être là. Un vendredi soir, c'est valeureux déjà. Bon, il fait beau, c'est agréable. Donc merci à Pascal et aux autres camarades pour l'organisation. Merci au cinéma pour son accueil. Et évidemment, le thème de ce soir, comme tu l'as introduit, est un thème d'une grande actualité. Pour reprendre un vieil adage, la réalité nous mord la nuque. C'est-à-dire que la question du fascisme est devenue une question à la fois prégnante en France, mais une question internationale. Donc le propos que je vais tenir ce soir, qui est celui du livre, c'est de mettre en perspective historiquement la genèse du fascisme avec la réalité concrète d'aujourd'hui, la menace fasciste, mais au-delà de l'analyse et du commentaire, de voir comment nous pouvons combattre le fascisme. C'est-à-dire qu'il faut le comprendre, il faut le combattre et il faut le vaincre. Voilà. Et comme disait Daniel Guérin, ça c'est une citation que je mets en avant-propos, si on veut éviter que le fascisme prenne le pouvoir, il faut prendre le pouvoir avant lui. Il faut avoir ça dans l'esprit. C'est-à-dire que nous sommes dans une réalité politique, nous sommes dans une réalité préélectorale, donc suivez mon regard. Voilà. Mon propos n'est pas simplement celui de quelqu'un qui écrit des livres, comme tu l'as dit, de quelqu'un qui... C'est un point de vue politique, c'est-à-dire c'est une expérience concrète projetée sur un événement historique. Et cet événement historique, il a une genèse. Je vais y venir, et le propos central de mon livre, c'est de dire que le fascisme n'est pas né en Italie, mais serait né en France. Pourquoi? Parce que 1789, c'est le grand choc en France et du point de vue international. Je voyage beaucoup en tant que co-coordinateur national du Parti de gauche à l'échelle internationale. J'étais aux États-Unis il y a encore une semaine, notamment en Louisiane et à New York. Et la Révolution française est une référence. J'ai organisé 15 missions au Kurdistan sur les zones de combat et ailleurs. La Révolution française est une référence. Et c'est une référence pour les progressistes, et c'est une référence pour les réactionnaires. Pourquoi? Parce que 1789, c'est le changement de paradigme. On passe de l'aristocratie naturelle, du droit divin, de la loi du plus fort, à l'idée que les êtres humains sont libres et égaux en droit, et que l'égalité et la citoyenneté et la démocratie sont une nouvelle manière d'administrer le monde et d'administrer la vie des êtres humains. Et à partir de ce moment-là, il y a un courant réactionnaire qui va se constituer en France, un courant radical, qui va d'abord prendre la forme du monarchisme radical avec Joseph de Maistre, Louis Bonnewald, qui va nous amener jusqu'à la Restauration, et puis 1930, la monarchie de juillet, 1830, la monarchie de juillet, des mécanismes très contradictoires sont à l'œuvre, des débuts d'organisation collective, avec la monarchie de juillet, les Trois Glorieuses, 1848, la Deuxième République, qui va quand même abolir l'esclavage que Napoléon avait restauré, la République sociale, qui proclame les droits de créance, c'est-à-dire le droit au travail, le droit au logement, les ateliers nationaux, et quand il n'y a pas cette possibilité d'avoir le droit au travail, le droit au logement, il y a les mécanismes compensatoires sous forme de location, que nous connaissons aujourd'hui. Et ça, ça vient de la révolution de 1848. Mais comme les révolutionnaires de 1848 ne sont pas allés au bout du processus révolutionnaire et que parmi eux, il y avait des éléments qui, y compris, ont fait tirer sur les ouvriers, les ont emprisonnés et ont trahi les promesses de 1848, où il faut quand même rappeler que 150 000 ouvriers et artisans de Paris rentrent en mouvement pour... la révolution de 1848. À ce moment-là, il y a l'installation de ce qu'on va appeler le bonapartisme, c'est-à-dire cette capacité à surfer sur le mécontentement populaire pour mieux le canaliser en s'appuyant sur des couches spécifiques du pays, la bourgeoisie, la moyenne propriété terrienne, etc., ce que va faire Bonaparte. Je dresse très rapidement cela, parce qu'il y a 200 ans d'histoire à balayer, mais c'est pour voir les grands éléments dans cette situation. Et au sein du bonapartisme, il y a des courants, on va dire, qui viennent de la gauche, mais il y a déjà des courants, comme tu le disais, qui sont pour un État autoritaire, un régime césariste, par référendum. Je n'aime pas beaucoup, moi, personnellement, le terme de
césariste.
De gouvernement illibéral, parce que ça nous renvoie au miroir, au fait que nous défendrions le libéralisme, ce qui n'est pas mon point de vue et ce qui n'est pas le point de vue de mon organisation. Je peux l'expliquer dans le débat. Ça nous amène à une polarisation politique, puisqu'il y a une très forte attente au sein des masses pour que la révolution de 1789, qui est une révolution politique, mais qui finalement n'a pas abouti à l'égalité sociale, y compris à l'égalité politique, ne serait-ce que si on prend les droits des femmes, etc., il va falloir encore attendre quelques années, près de 100 ans pour y arriver. Il y a donc une polarisation au sein de la gauche et de la droite, et ça nous amènera à la Commune de Paris, et à ce qu'on peut considérer comme étant la première forme de gouvernement populaire, politique, de l'histoire de l'humanité. C'est d'ailleurs repris par Marx, c'est repris par Lénine, c'est repris par tous les révolutionnaires comme étant un exemple. Je vous citais la question du Kurdistan, qui est la révolution démocratique du Rojava en Syrie, qui est un peu mal en point en ce moment avec le nouveau maître de Damas et l'alliance... Avec le régime d'Erdogan et le fait que les États-Unis se soient retirés comme bouclier de la frontière turco-syrienne, la Commune de Paris est un exemple au Kurdistan. C'est une référence. Ils chantent les chants de la Commune, il y a les images de la Commune, Louise Michel est une héroïne, etc. Donc vous voyez la puissance à la fois de notre révolution de 1789. Mais la révolution de 1789, c'est la révolution de 1793, avec sa constitution, qui est éminemment révolutionnaire et qui pourrait être d'actualité, qui prévoyait notamment que toute personne prenant en charge un enfant, un vieillard, etc., qui était étranger, avait le droit de citoyenneté et le droit de vote au bout d'un an. Ça peut être en correspondance avec des débats que nous avons actuellement dans la société sur comment on réalise à la fois la question de l'intégration et la question de l'égalité des droits. Donc 1870-1871, la Commune de Paris, le massacre de la Commune par les Versaillais et par Thiers, qui a quand même réussi à passer de 1848 à Bonaparte, etc., et être un des éléments après de la Troisième République. Voilà. Troisième République avec des éléments progressistes, mais des éléments aussi très réactionnaires, ne serait-ce que du point de vue du colonialisme, avec Jules Ferry à sa tête, le Janus à deux visages, qui peut à la fois être pour l'école publique et pour être dans de fait l'esclavage et l'exploitation dans les colonies. Et dans les années, on va dire, 1880-1890, cette droite réactionnaire qui incube dans les différentes phases de révolution et de contre-révolution, qui va se cristalliser en droite révolutionnaire de son point de vue, en disant nous allons exprimer le changement de régime, le bouleversement du système, l'expression du mécontentement populaire, s'appuyant sur deux choses, l'antisémitisme, avec l'affaire Dreyfus étant un élément paroxystique de ce point de vue-là, ce qui peut faire réfléchir aujourd'hui. Je sais qu'il y a certaines phrases, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui ont pu choquer en disant que l'antisémitisme était résiduel aujourd'hui. Quand on regarde la situation de l'antisémitisme dans les années 1890-1910 en France, on peut penser qu'on était dans un autre niveau d'antisémitisme, avec une presse antisémite à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, une ligue antisémite, des cabarets antisémites, et la LDH se crée à ce moment-là pour défendre Dreyfus. Et autre élément extrêmement important qui va préfigurer le fascisme, pour le coup, au pouvoir avec Mussolini, j'y viendrai après, en Italie, c'est l'idée de l'État corporatiste, c'est-à-dire l'alliance du capital et du travail qui se mélangent ensemble au profit d'une nation guerrière. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est la caractère, parce qu'on discutait en aparté sur extrême droite, autoritaire, régime fasciste, etc. Le fascisme, c'est avant tout l'État corporatiste, l'alliance capital-travail, en détruisant les syndicats indépendants et l'organisation indépendante de la classe ouvrière. Ça, c'est fondamental. La première mesure du fascisme, c'est de casser les reins aux associations, aux syndicats et aux partis, mais à commencer par les syndicats. J'y viendrai après en Italie. Les fascis de Mussolini, les faisceaux de combat, sont là pour casser les grèves, pour casser les piquets de grève, pour casser la révolte des braccianti, des salariés journaliers en Italie, agricoles, etc. J'y viendrai après. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et à ce moment-là, il y a déjà une rencontre étonnante qui se fait au sein d'un cercle qui s'appelle le cercle Proudhon, qui est un des principaux dirigeants anarchistes de ce pays, qui était de gauche sur le papier, tout en étant pour le libre-échange, et qui était en même temps antisémite. Donc c'est peut-être pas un hasard que le cercle Proudhon était le cercle de la rencontre des militants de Charles Maurras de l'Action française et des militants du syndicalisme révolutionnaire autour de Georges Sorel. Et on retrouvera cette alliance exactement pareille dans les années, fin des années 1910 en Italie, où vous avez la quasi-totalité des dirigeants du syndicalisme révolutionnaire et des futuristes d'ailleurs, école esthétique, culturelle, avant-gardistes, qui basculeront du côté du fascisme. Et ça, je vais donner quelques éléments par rapport à ça. Donc, je voulais balayer toute cette période-là pour montrer que, finalement, le fascisme, si on devait faire une phrase pour résumer, le fascisme, c'est la haine de l'égalité. Et il ne se réduit pas forcément à la question du racisme. Attention. Ça dépend des situations historiques, ça dépend des situations géopolitiques. Mussolini a très très peu utilisé le racisme, et y compris l'antisémitisme. Il a fallu attendre 1941, bon, première loi en 1939, 1941, mais pendant 20 ans, son objectif c'était de casser le mouvement ouvrier. C'était de mettre des gens comme Antonio Gramsci en prison, c'était de détruire les syndicats, c'était de faire assassiner Matteotti, le dirigeant socialiste italien, c'était de faire le régime de parti unique. Franco n'a pas utilisé le racisme, c'est un régime nationaliste, clérical, conservateur de droite radicale. C'est finalement le nazisme qui est la forme radicale du fascisme, là je vais y venir, c'est-à-dire le fascisme dans sa forme radicalisée avec le racialisme. Donc j'ai essayé de balayer cette première partie pour vous montrer que finalement il y a une genèse française du fascisme qui est liée à la question de la République. Le fascisme est consubstantiel à la République. Et dire ça, ça permet de comprendre le poids spécifique du Rassemblement national aujourd'hui dans ce pays. Toutes les déclarations de Marine Le Pen, de Bardella, etc., dès qu'il y a un mouvement social, c'est de dénoncer les grèves, de dénoncer les fouteurs de merde, de dénoncer les bloqueurs, etc. Regardez bien, ils vont même, Alliot a même dit qu'il fallait interdire les syndicats, etc., etc. Il y a des tas de déclarations qui sont extrêmement claires. Et pourtant, on n'est pas dans les années 30. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Ça, je reviendrai après. Donc, deuxième partie importante, bien évidemment, le fascisme historique. Le fascisme historique, il est le produit, c'est pas mécanique, mais il est le produit des deux plus grands événements du début du XXe siècle. Le premier grand événement du début du XXe siècle, c'est la première guerre impérialiste, la première boucherie mondiale, qui livre des dizaines de millions de gens d'abord à l'arrachement de ce qu'ils étaient, de leur famille, de leur terre, de leur vie, etc., pour aller mourir à Verdun comme, et ailleurs, et au chemin des dames, comme de la chair à canon. Et en réaction à cette première guerre mondiale, il y a la révolution russe, qui est le deuxième grand événement du début du XXe siècle. Les bolcheviks avaient promis la paix. Ils l'ont fait, on peut en penser ce qu'on veut, on pourra en discuter en aparté. Ils avaient promis la réforme agraire, ils l'ont fait, dans des conditions y compris de guerre civile, et les soviets avec le contrôle ouvrier sur les usines. Bon. À partir de ça, il y a une onde de choc en Europe. Il y a des centaines de milliers de militants qui veulent un autre monde, parce qu'ils ont vécu la boucherie justement précédente. Donc ils veulent, il y a la révolution en Allemagne, il ne faut pas oublier. Le Kaiser, en novembre 1918, est chassé par la révolution. Ça conduira après à l'insurrection spartakiste de décembre 1918, janvier 1919, écrasé dans le sang par la social-démocratie allemande, ce qui va créer des liens et une bonne ambiance de travail pour la suite avec les militants communistes, notamment. Et puis il y a une Hongrie, il y a des grèves gigantesques en Angleterre, voilà. Et en Italie, il y a le Benigno Rosso. Pendant deux ans, vous avez, en 1919 et 1920, de la production industrielle et de la distribution, notamment dans le nord de l'Italie, qui est contrôlée par les conseils ouvriers. Et ça, pour le patronat, c'est insupportable. Donc, atermoiement des directions syndicales, ne savant pas comment agir, comment agir par rapport à ces conseils ouvriers qui échappaient aux appareils, il faut le dire, donc avec des atermoiements, etc. Et puis, à un moment donné, quand la lutte a commencé à s'affaiblir en 1920, je vous le fais à grand trait, parce que je ne peux pas tout développer, véritablement, le grand patronat se réunit et dit qu'il faut arrêter le bolchevisme en Italie et décide de financer les faisceaux de combat de Mussolini en fin 1919, début 1920. Parallèlement à ça, Mussolini crée le parti fasciste en 1919 et ces faisceaux de combat interviennent pour casser physiquement, briser physiquement les militants syndicaux, les militants ouvriers. Ils font pareil avec les salariés agricoles, avec les braquanti, avec des scènes d'humiliation totale. Ils leur font boire de l'huile de ricin en place publique pour qu'ils se vident sur eux, etc. Enfin, c'est déjà comme ressort psychologique, le fascisme porte ça. Et bien évidemment, le fascisme va servir d'exemple à d'autres. En période de lutte sociale, en période de crise économique, évidemment, la correspondance, c'est l'Allemagne en 1923 avec un célèbre petit moustachu qui va faire un putsch, qui va tenter un putsch à Munich en 1923, s'appuyant sur des corps francs, sur des anciens groupes militaires issus de l'armée, y compris un général, Ludendorff, et il va prendre en otage dans une brasserie, parce qu'il y a des grandes brasseries en Allemagne, 2000 tables, responsables de la bourgeoisie locale, etc. Et puis finalement, ça va mal se terminer pour Hitler et ses amis du NSDAP, du parti... alors ça, c'est très intéressant. Le parti nazi, c'est un diminutif. C'est National-Socialistische Deutsche Arbeiterpartei, le parti national-socialiste des travailleurs allemands. C'est-à-dire que l'onde de choc de la révolution d'octobre, la révolution bolchevique, est tellement forte, y compris dans les rangs de l'extrême droite, qu'ils sont obligés de prendre le terme de socialisme. National-socialisme. Comme le socialisme n'a pas triomphé à l'échelle internationale, il y a une version, selon l'extrême droite, du socialisme national qui est possible. Et nous savons bien que ça n'est pas du socialisme, puisque c'est basé sur l'alliance capital-travail, c'est basé sur la manière de dresser les ouvriers et de les diviser entre les chômeurs, les ouvriers syndiqués qui ont des conquêtes, etc. Ce qu'on peut mettre encore en parallèle aujourd'hui avec la capacité de l'extrême droite à diviser les travailleurs entre eux suivant leur situation, entre les fonctionnaires, entre le privé, entre les salariés, entre les artisans, entre évidemment ceux qui sont issus de l'immigration, ceux qui ne le sont pas, etc. Donc le nazisme finalement va triompher en 1933 à cause d'une division profonde au sein de la gauche. Il faut savoir qu'aux élections de décembre 1932, le Parti social-démocrate allemand et le Parti communiste sont encore majoritaires en voix.
S'ils font la somme.
Oui, s'ils font la somme. Et la guerre a été fratricide. Pourquoi ? Parce qu'un certain Joseph Staline, qui dirigeait l'Union soviétique, était à la tête de l'internationale dite communiste à l'époque, avait donné l'ordre au Parti communiste allemand d'expliquer que la social-démocratie allemande avait toutes les tares, elle en avait certains nombres, notamment d'avoir assassiné Rosa Luxembourg, d'avoir géré le capital pendant des années et des années, mais les militants sociaux-démocrates n'étaient pas forcément, eux, d'accord sur cette position. Et quand je dis les militants sociaux-démocrates, je ne parle pas du Parti socialiste aujourd'hui, avec 30 000 membres, dont 15 000 membres dépendent des élus. Je parle d'un parti qui a 2 000, 2 millions, 3 millions, 4 millions de membres, très actif, avec une conscience de classe, avec des références à la Révolution, au marxisme, etc., de manière très générale, je ne rentre pas dans les détails, mais fondamentalement, c'est de ça dont il s'agit. Donc, Hitler arrive au pouvoir, profite de cette division, et le Parti communiste était dans un tel état d'aveuglement en Allemagne que Thälmann, le dirigeant, le principal dirigeant du KPD allemand, du Parti communiste, disait en décembre 1932, janvier 1933, pardon, c'est-à-dire quelques jours avant que le vieux chancelier Hindenburg nomme Hitler le 30 janvier 1933, disait « Hitler au pouvoir, il y en a pour 6 mois ». Oui, effectivement, 6 mois après, le premier camp de concentration de Dachau était construit. Donc, le fascisme est une question spécifique. Ce n'est pas simplement un produit du capitalisme mécanique. C'est une question spécifique. Et ça, je voudrais insister là-dessus parce que ça permet de comprendre l'histoire et ça permet de comprendre... C'est... Alors, toi, tu l'as abordé sous l'angle de la Ligue des droits de l'homme, ce qui est bien normal, c'est-à-dire sous l'angle des libertés, etc. Mais moi, je vais l'aborder sous l'angle du capitalisme. Le fascisme, c'est la dernière solution pour la bourgeoisie pour maintenir son pouvoir quand tous les mécanismes de régulation parlementaire, démocratique, etc. sont épuisés. On utilise la force, la brutalité et l'écrasement physique et politique de la démocratie, des conquêtes et de ceux et de celles qui l'incarnent. C'est pas simplement les conquêtes. C'est qu'on met les gens en prison, on les torture, on les arrête, on les déporte, etc. C'est ça le fascisme. Donc, Hitler arrive au pouvoir et il est financé par les grands capitalistes. Je fais une petite incise culturelle, parce qu'on est dans un cinéma. Le meilleur exemple de ça, c'est les derniers de Visconti, de Luchino Visconti, où on voit... ce qui se passe dans cette grande famille de la sidérurgie allemande, on ne sait pas si c'est Thyssen ou Krupp, et non, ils sont brutaux, voilà. Et puis finalement, il y a un des neveux qui rentre dans la SS, puis il y a le beau-frère qui rentre dans la SA, et puis on voit finalement ce cheminement, voilà. Et puis plutôt Hitler que le KPD, et puis en 1936 au Front Populaire, plutôt Hitler que le Front Populaire, et aujourd'hui, plutôt Bardella que Mélenchon. Voilà, je fais un raccourci, mais... oui, c'est un raccourci, mais... À un moment donné, vous savez, quand vous avez une polarisation politique, ça veut dire que vous avez aussi une polarisation entre les classes sociales, et qu'à un moment donné, les choses sont complexes. Mais à un moment donné, la polarisation, il y a deux pôles. Il y a deux côtés à la barricade. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas quatre. Puis il n'y en a pas qui dansent sur la barricade en criant à l'unité. C'est pas ça. Voilà. Donc, la question, c'est de réunir toutes les conditions en amont pour que, précisément, ceci ne puisse pas se renouveler. Donc, la grande leçon, c'est... par rapport au fascisme en Italie, par rapport au nazisme, y compris en Espagne.
Non, elle a rien.
Parce que l'exemple de ce qui s'est passé avec la Révolution espagnole, je parle de la Révolution espagnole plutôt que de la République espagnole, quand vous avez les militants anarchistes de la CNT et du POUM, plutôt d'obédience trotskiste, qui prennent les terres aux propriétaires terriens, aux obreaux et les grandes usines, et que vous avez les militants socialistes, les dirigeants socialistes et les dirigeants communistes qui donnent l'ordre de rendre les terres aux propriétaires terriens et aux usines au nom de... il faut défendre la démocratie bourgeoise contre le fascisme au lieu de s'appuyer sur la révolution sociale, qui précisément est le meilleur contenu et le meilleur rempart pour lutter contre le fascisme, tout ça, ça interroge. Donc la grande leçon, c'est qu'il faut un front unique des organisations du mouvement démocratique et du mouvement ouvrier contre le fascisme. Ça, c'est certainement la vraie leçon. Mais ça suppose une volonté, mais ça suppose aussi une clarté. C'est-à-dire que le front unique des organisations du mouvement démocratique et du mouvement ouvrier, c'est pas le front républicain qui va d'Édouard Philippe à nous. Non, on nous a fait le coup une fois avec Chirac, rappelez-vous, en 2002. Bon, on va éviter de reproduire la même chose. Et pour éviter de reproduire la même chose, on va faire en sorte que la lutte contre le fascisme, c'est-à-dire la lutte pour l'égalité sociale, l'égalité politique et l'égalité des droits, aille jusqu'au bout et soit le meilleur contenu de l'unité. Je termine. Puisque je vais prendre 10 minutes, on va dire que je vais faire pas moins le quart, mais moins 10, hein, et moins 20. Je voudrais faire, évidemment, parler du après le fascisme historique, que j'ai balayé un peu rapidement. Donc avant de prendre les trois exemples que j'ai pris dans mon livre là, certains me diront pourquoi ces trois exemples là. J'ai pris les États-Unis, j'ai pris Israël et j'ai pris l'Inde. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi je n'ai pas pris d'autres pays. Avant tout, je voudrais insister sur le fait que nous sommes dans un cycle historique qui a été ouvert par le coup d'État au Chili du 11 septembre 1973. Voilà. Ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que entre 1970 et 1973, vous aviez le gouvernement de l'unité populaire de Salvador Allende qui regroupait toutes les structures du mouvement démocratique, toutes les structures collectives, associations, syndicats, partis, etc. Ce régime avait une base de masse, avait des réalisations exemplaires et avait nationalisé le cuivre, qui est la grande richesse chilienne et qui était, de fait, pour toutes ces raisons économiques, politiques, bataille culturelle, bataille idéologique, un danger pour les États-Unis. Donc ils ont fomenté un coup d'État. La CIA a organisé le coup d'État contre Salvador Allende le 11 septembre 1973 avec X moyens. On a fait manifester la petite bourgeoisie et les camionneurs dans la rue, etc. Je fais une incise. La base sociale du fascisme, c'est toujours la petite bourgeoisie en crise. Toujours. C'est la caractéristique fondamentale. Alors là, c'est pour ça que je parle au-delà de la question des valeurs, de l'état de droit, etc. Il y a une nature de classe dans toutes les organisations, dans tous les programmes politiques. Et le fascisme s'appuie sur la colère de la petite bourgeoisie qui est victime de la concentration du capital et de sa dégradation des conditions de vie. C'est valable aussi pour la petite paysannerie, et on le voit notamment avec des éléments de la coordination rurale qui sont tentés par le fascisme. On le voit avec des secteurs entiers de la petite bourgeoisie qui souvent viennent du peuple et n'ont pas envie d'y retourner, donc méprisent le prolétariat tout en voulant arriver au plus haut niveau avec les codes de la grande bourgeoisie, etc. Donc on a tous ces mécanismes-là. Donc nous sommes dans le cycle ouvert par le coup d'État au Chili, avec les Chicago Boys, c'est-à-dire l'école ultra-libérale de Milton Friedman, qui a d'ailleurs été en 1976 prix Nobel de l'économie. Voilà. Bon, quand on sait que c'est une banque maintenant qui délivre le prix Nobel, on sait d'où ça vient. Hein, on a le Tyrol là, à Toulouse, là, le Toulouse School of
Economics,
Jean Tyrol, qui est prix Nobel d'économie. En réalité, c'est une banque. Voilà, donc c'est pas très neutre. Donc ce cycle-là est très important, et ce cycle-là va avoir une onde de choc. Les coups d'État en Argentine, en 1974-1976, les années Reagan, avec l'ultralibéralisme, les années Thatcher, les plans Hartz qu'on va avoir en Allemagne, Hartz 1, Hartz 2, Hartz 3, Hartz 4, mis en place par la social-démocratie. Là aussi, on a un paradoxe. C'est-à-dire que la social-démocratie allemande démonte, détricote tout l'État social qu'elle a construit à la fin du 19e et début du 20e siècle. Et pareil en Angleterre, parce que Tony Blair, le New Labour, dans New Labour, vous avez New, mais vous n'avez plus Labour. Hein? Donc lui, il a bien cassé aussi. Il a d'ailleurs dit qu'il était un thatcheriste honteux un jour, Tony Blair. Voilà, donc ça, c'est tout dire. Donc ce cycle-là est fondamental, et nous sommes encore dans ce cycle-là. C'est-à-dire le cycle de la brutalisation des conquêtes sociales, de la brutalisation du peuple et de la brutalisation de la nature. Parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect écologique, bien évidemment, dans le capitalisme en crise. Le capitalisme, comme disait Marx, épuise le travailleur et la nature. Il ne faut pas oublier ça, et ça, ça paraît fondamental. Les trois éléments donc, d'éclairage sur le fascisme contemporain, pourquoi j'ai pris les États-Unis, pourquoi j'ai pris Israël et pourquoi j'ai pris l'Inde, tout simplement parce que ces trois pays avaient une promesse démocratique universelle, et que cette promesse démocratique universelle a été trahie vis-à-vis de leur propre peuple et aux yeux du monde. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur les États-Unis, première puissance du monde libre, première révolution démocratique, avant même la révolution française, etc. J'ai pas besoin de vous faire un dessin sur la promesse que devait être l'État d'Israël pour son propre peuple et les peuples de la région. Et l'Inde, qui elle aussi, à travers le Gandhi, l'Union indienne, avait une promesse démocratique extrêmement forte, et qui est aujourd'hui un régime qui met en péril 250 millions de musulmans au quotidien. Au moment où je vous parle, là, vous avez 400 millions de petits indiens dans les manuels scolaires qui lisent que Mussolini et Hitler étaient des personnages formidables. C'est écrit, il y a les dessins. C'est ça l'Inde aujourd'hui. C'est le contrôle des mosquées tous les jours à la sortie des mosquées pour... Et vous imaginez les forces sociales en présence. Là, on ne discute pas de 10 000 personnes, là. On discute de 250 millions de musulmans en Inde. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc, le fascisme aux États-Unis... Je pourrais donner des éléments d'illustration, mais ils sont traités dans mon livre, sur la galaxie Trump, comment Trump est arrivé au pouvoir, comment il a utilisé différents réseaux, les réseaux ultralibéraux, les réseaux protestants radicaux, les évangélistes, comment il a utilisé les réseaux ségrégationnistes, etc. etc., etc. Enfin, je termine, le Rassemblement national. Le Rassemblement national est l'héritier d'une histoire. Il a été fondé par des Waffen-SS, par des chefs de la milice. Voilà. On connaît l'histoire. Hein, Brignot,
Loriot.
Non, pas Loriot. La fondation du Front National. Loriot était tué en. Non, je ne remonte pas à Loriot. Je remonte à tous ceux qui ont créé le Front National, y compris qui étaient sur le front de l'Est, qui ont massacré les Juifs en Ukraine, etc., qui ont été recyclés dans les années 70. Donc le parti peut changer de nom. Il a d'ailleurs, Marine Le Pen a d'ailleurs fait une pirouette extrêmement intéressante pour se laver de tout antisémitisme. Elle a décidé depuis 10 ans de soutenir les colons en Israël. Comme ça vous avez Bardella et Zemmour qui sont invités à Yad Vashem en Israël. C'est absolument fabuleux quand même. Et nous qui sommes criminalisés comme étant des antisémites. Voyez le. Ça, c'est le fascisme. C'est la capacité à brouiller les cartes, à brouiller les repères. Et à renverser les paradigmes. Voilà. Donc, le Rassemblement national fait allégeance. Il n'est plus trop pour la sortie de l'OTAN. Il n'est plus trop pour la sortie de l'euro. Fait allégeance à la bourgeoisie française et à la bourgeoisie européenne pour arriver au pouvoir. Enfin, on peut penser que si vous avez un axe Mélanie, Bardella, Alice Weidel avec l'AFD en Allemagne, on peut penser qu'un jour, ces gens-là vont vraiment... revenir aux sources et appliquer leur programme. Pour le moment, il y a un changement cosmétique. Ils sont d'une très grande plasticité, une très grande intelligence. Il ne faut pas mépriser les fascistes. Comme disait Trotsky, ce sont des marxistes à l'envers. C'est-à-dire qu'ils comprennent exactement la même chose que nous. Ils savent ce que c'est que la lutte de classe. Ils essayent de la pervertir sur le terrain ethnique. Ils savent ce que c'est que l'agitation et la propagande. Ils savent ce que c'est que la tactique et la stratégie. Donc, ils sont très intelligents. Et c'est pour ça qu'il faut... bien comprendre le fascisme pour mieux le combattre. Voilà, j'essaye de terminer là-dessus. Et bien évidemment, pour en savoir plus, ce livre-là, qui n'est pas du tout un ouvrage académique, c'est rédigé comme je viens de vous parler à l'instant, et vous pouvez en savoir plus. Merci.
C'était votre reportage sur Radio Fil de l'eau autour de l'ouvrage de l'auteur Jean-Christophe Célin, Comprendre et vaincre le fascisme au cinéma Olympia de l'île Jourdain, organisé et co-organisé avec la Ligue des droits de l'homme. Je vous laisse avec la programmation du Radio Fil de l'eau, 106.6 à l'île Jourdain, 100.9 à Florence, www.radiofildelot.fr pour tous les podcasts. Restez à l'écoute. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.